Plan large.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
David Léonard, Widmer, bonjour.
Bonjour.
Vous m'avez donné rendez-vous à Martigny, à l'hôtel des Trois Couronnes. On va dire pourquoi. Je vais vous présenter d'abord. Vous êtes luthier. Luthier, c'est un métier rare aujourd'hui. C'est un métier qui aurait peut-être pu disparaître. On aurait pu vous remplacer par des machines, mais c'est un de ces métiers de patrimoine fascinants. Vous êtes assez jeune. Vous avez quoi, 35 ans, 34 ans ?
35.
35 ans. Et vous avez choisi ce métier qui consiste donc à fabriquer, construire des violons, des violoncelles, des instruments à cordes, on va dire. Hein. C'est juste ?
C'est exact.
Voilà. Qu'est-ce qui vous amène à la lutherie ?
Quand on était petit, on avait été visiter un luthier et ça m'avait fasciné. Mais à cette époque-là, je ne pensais pas que je faisais partie de ce monde-là. Donc j'avais gardé ça sur le coin de ma tête. Et plus tard, j'ai commencé par un apprentissage d'ébéniste. Et je faisais de la guitare. Donc au bout d'un moment, j'ai bien voulu faire ma guitare. Et ça a dérivé petit à petit sur le quatuor. Ça s'est fait vraiment petit à petit et ça s'est ancré le jour où j'ai compris que je m'en sortais pas trop mal. Dès qu'il y a un peu de reconnaissance quelque part, on y reste.
Alors vous avez fait ce qu'il fallait, hein, apprenti ébéniste. On va parler du lieu d'ailleurs, hein. C'est pas un mystère si vous me donnez rendez-vous ici au bourg à Martigny. Qu'est-ce que cette place a de particulier ?
Ce qu'elle a de particulier, c'est que sur cette place, à côté des Trois Couronnes, il y a un bac à fleurs où il y a des géraniums dedans. Et ce bac à fleurs, c'est le premier objet que j'ai construit à mon apprentissage. Et pour moi, c'est le
début. Avec déjà des courbes.
Exactement.
Qui peuvent rappeler un petit peu le violon.
Et c'est le début de l'initiation parce que je faisais aussi mes cours de guitare ici chez mon prof Fred, qui était au troisième étage du bâtiment juste en face. Et je me suis dit, ces deux choses réunies, c'est exactement ce qui s'est passé pour le
qui
début
vous,
de...
Qui vous amène là où vous êtes. On exactement. Est dans votre centre du monde, en somme.
Exactement. Et il y avait ici un luthier, Frédéric Berthaud, un copain, qui était luthier sur cette place. Donc ça fait quand même trois coïncidences et les Trois Couronnes représentent bien ça.
Bon, vous avez commencé jeune, hein, apprentissage, donc quoi, 16 ans,
15 ans,
15, ouais. 16 ans, ébéniste, puis construit votre première guitare, j'imagine, pour vous. Hein, pas,
oui.
Voilà. Et puis après, ce monde-là, d'aller construire, qu'est-ce que ça a de particulier, ce métier de luthier ?
Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un métier quand même assez complet. C'est-à-dire qu'il y a de la physique, des éléments, il y a de la chimie, il y a beaucoup de psychologie, parce que les musiciens, c'est particulier pour eux leur rapport avec l'instrument. Et quand on pousse, on arrive à la philosophie, on arrive sur beaucoup de choses, parce qu'on travaille avec des matières organiques, à savoir le bois et l'humain. Et du coup, on doit se poser des questions de comment adapter... toutes ces choses de manière harmonieuse. Et pour ça, en fait, c'est toujours du cas par cas et c'est toujours un équilibre. Il n'y a pas de radicalité.
On ne fait jamais le même instrument.
On ne fait jamais. Ouais. Il faut juste comprendre ce que la personne a besoin et ce que moi aussi j'ai envie de faire. Enfin, c'est vraiment c'est un tout.
Une symbiose entre l'artiste qui va utiliser l'objet et celui qui le façonne. Alors, je continue un petit peu votre bonhomme de chemin. Hein. Vous êtes allé ensuite chez un luthier ici en Valais qui a distingué, enfin en Suisse en tout cas.
Non,
qui n'a pas distingué votre talent et qui vous a envoyé à l'école en France.
Ah oui, justement, quand j'ai fait ma première guitare, j'ai un ami luthier de Villers-la-Roue à Saillon qui m'a aidé pour faire la guitare et c'est lui qui m'a dit il y a une école en France à Mirecourt et je le remercie d'ailleurs, Alain Perraudin, et je remercie aussi Vincent Voutat qui était mon maître d'apprentissage, qui est une personne exceptionnelle à qui je dois beaucoup aujourd'hui parce que je garde quand même dans la tête que mon apprentissage d'ébéniste m'a permis assez rapidement de comprendre ce monde, savoir que quand on coupe une planche trop courte, on ne peut pas la coller. Quand elle est trop longue, c'est pareil. Il faut trouver la juste mesure. Et quand on a la chance d'être artisan, on n'est pas sur des théories et du coup on est un peu plus cadré pour avancer dans la vie.
Bon, vous avez autour de 18, 19, 20 ans, j'imagine, quand vous choisissez ce métier de luthier, c'est-à-dire vous allez travailler sur le façonnage d'instruments de musique. C'est pas anodin, parce que c'est un métier, je le disais, c'est un métier rare, c'est un métier de patrimoine, mm-hmm. comme on dit. C'est un saut quand même. On se dit, bah, je vais être vraiment dans une niche. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce qu'il y a une économie? Vous avez eu ces réflexions-là ou vous avez été guidé par la passion?
D'abord, c'était la passion. Je ne pensais pas au fait qu'on puisse réussir là-dedans.
Vivre, pas vivre, bien vivre.
Exactement. Ouais. Et en entrant dans cette école, j'ai quand même compris qu'il y avait des débouchés. Et comme il y a encore beaucoup d'orchestres, c'est un métier qui est vieux, mais il a traversé le temps. Entre-temps, il y a eu plein de nouveaux métiers prometteurs qui se sont déjà écroulés. Et on a eu le charbon, on a eu plein de choses. Et la musique, pour l'instant, on n'a pas trop envie de lâcher. Et je crois que on aura toujours besoin de rêver un peu.
Je suis presque sûr que mon métier va disparaître avant le vôtre, hein, cela dit. Mais y a quelque chose d'étonnant, c'est le rapport au passé hein, dans ce métier de luthier. Oui. On a les noms, les grands noms. On a Cremone en Italie, on a Stradivarius, le mot que tout le monde connaît. On sait que ces violons-là, ces violoncelles-là, sont entrés dans l'histoire. On la patine du temps. Mm-hmm. Quel est le rapport à l'histoire que vous avez? Est-ce que vous avez l'impression de construire les Stradivarius dedans deux siècles? Est-ce que vous en avez l'espoir?
Alors, au début, quand on veut faire des violons, on pense vraiment juste à faire des violons. Et plus on s'élabore, c'est vraiment une crise existentielle justement sur l'idée de l'histoire, parce que j'ai appris à Mirecourt où justement, c'est plutôt une école qui était déjà... Mirecourt, c'était déjà l'industrie du violon. Donc on avait une manière de fabriquer comme les usines de Mirecourt, où on prend des gabarits, on trace, c'était très mécanique. Et moi, je fais beaucoup de copies d'anciens et on ne peut pas arriver à la même grâce, à l'état de grâce d'instrument si on fait froidement les choses. Et du coup, il m'a fallu comprendre comment eux fabriquaient et quelles étaient leurs façons de penser. Et du coup...
Il y a notamment un rapport au temps. Hein. On ne construisait pas un violon en 3 semaines.
Ils étaient quand même assez rapides parce qu'ils étaient, je pense, nombreux dans les ateliers. Parce que moi, je ne sais pas combien je vais faire d'instruments, mais j'en ferai... moins que Stradivarius lui-même, alors qu'aujourd'hui j'ai plus de machines, mais je fais quand même beaucoup à la main. Mais on va dire que c'était aussi la Renaissance italienne et ce qui a suivi derrière, justement un rapport au monde. Quand la ville de Cremone a été décimée et que 3 personnes sur 4 étaient mortes. Et la ville était assez fantomatique.
Et, on parle de quoi, là, la peste ou...
De la peste. Ouais. Quand on est artisan et qu'on pense avoir la tâche de construire ce monde et qu'il arrive des catastrophes comme ça, on ne le fait pas de manière légère et on le fait de manière profonde parce qu'on a un rapport peut-être au divin.
Ah, j'allais amener Dieu, hein, parce que je le sens poindre dans votre affaire. Je ne vous parle pas de vos convictions personnelles,
non,
mais il y a un rapport au temps long.
Exactement, ouais. C'est-à-dire que moi, je vois... on va peut-être y revenir plus tard, mais j'habite à Lyon. Et le vieux Lyon, on ne veut pas y toucher. Et entre-temps, il y a des maisons ici qu'on restaure. Et il y a déjà des blocs qu'on a construits dans les années 70 qu'on dynamite. Et c'est aussi un rapport à l'effort, à la conscience, à ces choses-là. Et les instruments qui traversent le temps, il y a quelque chose, justement, une recherche personnelle. Et ce n'est pas une idée de production, mais c'est une sorte d'image, d'hommage à la chose divine et à la nature. Et quand on voit des gens comme, de la Renaissance comme Léonard de Vinci, comme ça, la première chose qu'ils faisaient, c'était d'abord étudier la nature pour savoir comment créer quelque chose qui va être en harmonie avec et rester.
La nature, elle a une importance pour vous aussi, le bois. Hein.
Tout à fait.
N'importe quel bois ne peut pas faire un bon violon, j'imagine.
Exactement, et là, on va voir, l'épicéa qu'on utilise vient de la région des Dolomites, et c'est des forêts qui commencent à bouger un petit peu aussi. quand on a des forêts avec la même espèce, si y a elle commence à être malade, ça va très très vite, et c'est un peu le cas en ce moment. Donc on est assez inquiet aussi sur certains
changements climatiques, des influences sur la forêt.
Exactement. Plus ça chauffe, plus les bestioles prolifèrent. Donc
Bon, rapport au monde, rapport à la nature, rapport à une certaine transcendance, on l'entend bien. Je reviens un peu à votre à cette partie CV, hein. Vous partez dans cette école en France, vous faites des concours, des concours d'artisans en somme, hein, internationaux, en Italie jusqu'aux États-Unis. Puis là alors c'est le succès. J'ai plus les noms des concours, mais enfin il y en a un à Crémone d'ailleurs, hein, qui est quand même la mecque des violons. Mais ça vous met dans la possibilité d'en faire réellement votre métier, de vous rendre indépendant. Vous avez aujourd'hui votre atelier.
Avec ma collègue Léa Trambert, on a pris un atelier qu'on partage. Et oui, ces concours, quand je suis sorti de l'école, j'ai eu la chance de travailler dans des grands ateliers de restauration, donc j'ai pu voir les instruments italiens.
On parlait du rapport au temps, on est presque dans le compagnonnage du Moyen-Âge, hein.
Exactement.
Sauf qu'à la place d'aller dans les villes d'Europe, vous êtes allé à New York, vous êtes allé
à Londres, et après à Lyon. Et justement, pour voir les grands instruments, et j'ai pu, en les restaurant, bien observer et comprendre certaines choses. Et justement, ces concours-là, ça a été depuis le début, j'aime bien me mettre des objectifs. Et c'était un peu un rêve, et ça m'a surtout poussé. Et quand, il s'avère que, surtout aux États-Unis, quand j'ai gagné des prix, j'ai présenté les trois instruments ont gagné des prix.
Donc c'est un violon, un violoncelle et un alto.
Et un alto. Ouais. J'avais fait 2 médailles d'or et 1 d'argent. Là, quelques jours plus tard, c'était à 29 ans, je me suis dit, mais maintenant, moi j'avais tout construit sur cet objectif. Maintenant que
je l'ai, qu'est-ce que je fais?
Voilà. Ouais. Donc ça a été quand même d'autres réflexions. Et on peut continuer indéfiniment les concours. Et moi... les concours, ça a surtout été justement pour dire, voilà, je sais faire des instruments, mais je ne veux pas faire des instruments pour les concours. Ils sont nécessaires, et après, il faut aussi savoir passer à autre chose.
Ils vous ont amené à un cap qui vous permet aujourd'hui d'avoir des grands musiciens internationaux. Moi, je vais le dire, si on se rencontre aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait une interview avec Ophélie Gaillard, violoncelliste, avec une carrière internationale, qui m'a dit, tiens, mon luthier, il est valaisan, il vient d'ici. Ce rapport, disons que ces concours, on va parler un petit peu du rapport avec les musiciens en deuxième partie, mais ces concours, ils permettent justement la carte de visite, quoi.
Ah oui, tout à fait. C'est à dire que ça rassure. Après, les musiciens, ça marche surtout par le bouche à oreille, mais ça fait
pose,
en sorte
ça pose
oui, ça,
ça
pose des
ça
bases
pose l'atelier, quoi.
Et puis les confrères sont voilà. Oui, c'est sûr que c'était nécessaire. Ça a été dur pour moi d'arrêter l'engrenage des concours et parce qu'on peut, plus on en a, plus. Mais je vois aussi beaucoup de gens qui font beaucoup de concours et finalement font plus d'instruments pour les concours et ils développent pas assez leur rapport aux musiciens. Et c'est là que le métier commence.
Important du métier. C'est là qu'il commence. On va en parler justement dans la deuxième partie de cette émission.